un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Abdelkader Haroun est un commissaire pas comme les autres. Il a connu sa première heure de gloire en 2008 dans un fameux documentaire signé Moscou-Lévy-Boucau et intitulé Commissariat Central qui se passe à Roubaix et raconte les aventures d'un policier qu'on croirait d'une autre époque. Flic social, humaniste, engagé, enfin pas exactement la brave M. Puis son histoire a été adaptée avec plus ou moins de brio par Arnaud Desplechin dans Roubaix une lumière, avant qu'Haroun lui-même ne devienne une personnalité spéciale de France Culture dans la série Roubaix d'Alain Lefkovitch pour Les Pieds sur Terre et puis dans Un avoué nu en 2023. Non content d'œuvrer à la paix sociale dans son commissariat pour joindre le geste à la parole, le commissaire Haroun a ensuite créé à Roubaix une association qui s'appelle Les Chemins de la Réussite et qui a deux objectifs. Le premier est un vaste programme puisqu'il s'agit de réconcilier les jeunes des milieux défavorisés avec l'État. Le second est très concret. Aider ces jeunes à trouver des stages et du travail en leur proposant parrain ou marraine pour les orienter, voire les pistonner. Évidemment, la conception de la réussite qui sous-tend ce projet n'est pas très décroissante, certains diront, et plutôt tradie. C'est la réussite sociale, le diplôme, l'idée de s'élever dans la société et de changer de classe. Mais comme on l'entend tout de suite avec deux jeunes filles, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, comme toujours, et plus surprenant aussi. Reportage Alain Lefkovitch. Trigger warning, féminicide et VSS.
Du coup, je m'appelle Wendy, j'ai 22 ans, je suis non-voyante depuis l'âge de 4 ans et je suis étudiante en master 1 de criminologie. Je viens de Valenciennes. Ma maman était au foyer et mon père était électricien. Mes parents se sont séparés, donc je suis restée avec ma mère et donc j'ai perdu le contact avec mon père. J'ai deux grands frères. Ma mère s'est débrouillée pour nous élever tous les trois. Comment, je sais pas, mais on s'est battus dans tous les sens et on y est arrivé finalement. En fait, je suis allée dans une école spécialisée pendant mon enfance jusqu'à mon entrée au collège. Et ensuite, j'ai eu une scolarité classique, collège, lycée. Enfin, j'ai eu un bac littéraire, j'ai fait une licence de droit. Et en parallèle de ma dernière année de licence, j'ai fait un diplôme universitaire de criminologie. Et du coup, maintenant, je suis en master. Vers 14 ans, je voulais être traductrice en allemand et en russe dans les tribunaux parce que en Allemagne et en Russie, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'affaires criminelles hyper importantes et ça me fascinait parce que je connaissais des affaires bien précises et qui étaient assez choquantes et du coup j'ai fait un peu le raccourci de me dire que c'était dans ces pays-là qu'il y en avait le plus alors qu'il y en a partout dans le monde, c'est juste une question de médiatisation. C'était surtout des affaires de cannibalisme. Pour l'histoire allemande, un gars qui s'était inscrit sur un site de rencontre où il cherchait une personne consentante pour se faire tuer et manger. Et ça avait marché, sauf que c'est illégal, quoi. Même si la personne signe un document pour dire qu'elle est consentante, ça reste illégal, donc il s'était fait arrêter par la suite. Du coup, il y a l'aspect criminologique derrière où il y a plein de questions qui se posent au niveau du droit. Pourquoi il est puni alors que la personne était consentante? Enfin, c'est normal, hein, je trouve ça normal, mais c'est quand même intéressant de se poser la question. Et en Russie, c'était un mec, en rentrant de soirée, il s'est battu avec un autre gars et il l'a tué. Et ensuite, il a vendu sa chair ou alors il l'a donné, je sais plus, à ses voisins en leur disant que c'était de la viande de kangourou ou un truc comme ça. Ces deux affaires, elles m'ont intéressée parce qu'elles étaient hyper particulières, mais il y en a des tas d'autres. Si je devais me décrire physiquement, je suis pas très grande, mince, j'ai les cheveux longs, je suis châtain, j'ai les yeux marrons. J'ai des potes qui m'appellent Mirogolo parce que je fais des blagues tout le temps. Moi, tout me fait rire, hein, vraiment. Je suis très bon public. Je rigole à toutes les blagues. Je rigole même à ce qui n'est pas drôle. Je rigole à mes propres blagues aussi parce que je suis mon premier public. Je viens d'un milieu assez défavorisé. J'ai grandi dans des quartiers, vraiment le cliché qu'on peut avoir en tête du quartier, quoi. J'ai toujours grandi là où il y a du trafic de drogue et ce genre de choses. Et étant aveugle, j'avais pas une grande carrière en tant que dealeuse. Et là, même avec le culot, je me vois pas arriver et dire « Ouais, je suis aveugle, mais franchement, donne-moi la marchandise et je te vends ça pour samedi. Je suis pas convaincue de la technique. » Et j'ai un peu paniqué pendant l'adolescence où je me suis dit « Ok, bah du coup, visiblement, quand on est handicapé, on peut pas travailler comme les autres. Donc il va falloir que je me renseigne pour savoir ce que je peux faire dans la vie. Je peux pas travailler à l'usine, je peux pas m'occuper des personnes âgées, je peux pas travailler avec les enfants parce que les gens me feraient pas confiance. Et je me voyais pas non plus juste faire des enfants et les élever au milieu du quartier comme beaucoup d'autres filles qui m'entouraient, quoi. Du coup, il faut que je me trouve un travail bien payé si possible, dans un bureau où c'est confortable et où le handicap n'est pas trop un frein. J'ai commencé le droit parce que on m'a beaucoup dit que les métiers de traducteur, ça n'avait pas beaucoup d'avenir à cause des nouvelles technologies. Donc je me suis dit, on va faire du droit et puis, je sais pas, avocate ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai découvert la criminologie. Du coup, c'est un peu plus des métiers de bureau et pas tellement de terrain. La criminologie, c'est vraiment le fait de comprendre les criminels, leur passage à l'acte. Il y a des tas de raisons qui mènent au passage à l'acte. Et moi, mon but, c'est d'aider les criminels à se réinsérer. Dans mon parcours, ce qui se ressent le plus, là, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de contact plutôt que d'être handicapé. Je pense que mon milieu me porte plus préjudice que mon handicap parce que du coup, je connais personne. Je suis la première de ma famille à faire des études. Le système d'études est complètement étranger pour eux. La plupart sont arrêtés au brevet ou au bac, mais ensuite, c'est complètement flou pour eux. Personne ne sait trop comment ça fonctionne. Du coup, j'ai tenté de chercher des stages entre ma deuxième et ma troisième année de droit. J'ai eu énormément de refus avant même de dire que j'étais handicapée déjà quand je téléphonais, mais alors quand je me présentais, c'était hyper compliqué. La première chose qu'on voit, c'est soit ma canne, soit mon chien. Et du coup, ça inquiète quand on ne connaît pas. C'est un peu angoissant de se dire, mince, qu'est-ce que je vais lui faire faire? À quoi elle va me servir un peu dans l'entreprise? Donc c'est mieux d'accepter quelqu'un d'autre qui pose moins de difficultés. Donc quand le projet des chemins de la réussite a été lancé, j'ai été approchée par un de mes professeurs qui m'avait repérée et qui m'a proposé d'être bénéficiaire de l'association, histoire de m'aider à trouver des stages ou des contacts pour la suite de mon projet professionnel. J'ai bénéficié des chemins de la réussite depuis déjà presque un an. J'étais parrainée par le préfet de région et je déjeunais à peu près une fois par mois avec lui. Et on parlait un peu de mes projets, de comment se passent mes études, ce que j'envisage par la suite. Il m'a remis un peu une ou deux fois les idées en place parce que j'étais un peu fatiguée par les cours et je voulais arrêter. Et donc il m'a fait rencontrer le directeur du service pénitentiaire de Lille pour qu'il me parle un peu des missions du service pénitentiaire puisque c'est là-dedans que je veux travailler. Et sinon, on parle de plein de sujets d'actualité et c'est hyper intéressant parce qu'on partage des avis politiques super différents et je lui apporte un autre point de vue un peu. Je suis de gauche, il est de droite. Vraiment, nos discussions, elles sont assez intéressantes. il a pas l'habitude, je pense, de discuter avec des jeunes défavorisés mais qui font des études et donc qui sont pas complètement coupés du système politique. Et justement, je pense que j'ai une mission un peu en allant déjeuner avec le préfet, en lui racontant un peu comment c'est de l'autre côté, quoi. Voilà le ressenti qu'on a, voilà pourquoi on manifeste, voilà pourquoi ça se passe comme ça. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais je suis d'accord avec certaines choses et je participe, quoi. Lui, ça le fait marrer. Ça le fait rire de se dire que, bah, des fois je manifeste devant la préfecture et des fois je déjeune à l'intérieur, quoi. Ça dépend des jours. Ce lien que j'ai avec lui, je l'ai trouvé intéressant parce que justement, j'apprends les dialogues diplomatiques. Ça, c'est pas mon truc, hein. Je suis un peu trop à l'aise et je suis un peu trop honnête. Donc bon, c'est pas plus mal des fois d'apprendre à communiquer de manière diplomate. C'est à utiliser avec parcimonie. Je pense qu'on s'apprend des choses mutuellement. Et un jour, il m'a dit une phrase que je trouve... vraiment, ça m'a fait super plaisir. Il m'a dit, en fait, j'adore discuter avec vous parce que à chaque fois, ça me met une claque dans la gueule parce que vous avez pas peur de me dire les choses. En tout cas, moi, je me rends compte qu'on n'a pas la même vie, quoi. Je suis pas sûre qu'il ait l'habitude de prendre le métro, de se faire accoster par les toxicomanes de Lille. Enfin, moi, j'ai pas un cuisinier qui me cuisine des trucs tous les midis. J'ai pas de maître d'hôtel. Ça me fait marrer, quoi. Le matin, je prends mon petit déj au crous. Le midi, je déjeune à la préfecture. Et le soir, je rentre au crous. Enfin, c'est hyper clivant pour le coup. Et en même temps, je me sens plutôt à l'aise dans les deux, quoi. Les inégalités, je crois que je les ai toujours remarquées parce que déjà quand j'étais au collège, j'avais des potes comme moi dont les parents étaient ouvriers ou au foyer ou ce genre de choses. Et dans ma classe, il y avait des gens, leurs parents étaient notaires, ils venaient aux réunions parents-prof avec leur mallette alors que vraiment mes parents et moi, on venait en jean basket, quoi, hyper à l'aise. Ça s'est poursuivi après à la fac parce que bah, je suis venue m'installer à Lille, j'avais que ma bourse. Je comptais l'argent pour manger et tout. Alors qu'il y avait plein de mes potes dont les parents leur avaient ouvert des comptes à la naissance, leur envoyaient de l'argent tous les mois. Et encore maintenant, malgré le fait que je sois dans une fac privée, bah, je m'en rends encore compte parce que j'ai eu une réduction, mais j'ai payé mon année toute seule. Et il y en a d'autres pour qui les parents ont payé cash toute l'année et puis ils leur payent un appart à côté en face de la fac. Mais moi, je vis avec la bourse et l'allocation d'adultes handicapés. Donc ça fait à peu près 1500 euros par mois. Avec 1500 euros par mois, on vit bien. Hein. L'avenir, du coup, bah, j'aimerais bien terminer mon master de crimino, intégrer l'école de l'administration pénitentiaire et devenir conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Je cherche un stage au service pénitentiaire, soit au sein d'une prison, soit dans les locaux du SPIP ou ce genre de choses. J'ai postulé en tout cas et j'attends des réponses. Et une fois de plus, mon culot légendaire, j'appelle toutes les semaines en disant non, mais je vais être sûre que vous ayez bien reçu ma candidature parce que vous savez, je voudrais pas passer à côté d'une éventuelle réponse positive. Et ensuite, vraiment, moi je veux une vie tranquille, hein, un travail, une maison, pouvoir aller en vacances quand j'en ai envie et pas trop m'inquiéter de ce que sera demain, quoi.
Rencontré le commissaire Haroun et du coup l'association Les Chemins de la Réussite qui m'a expliqué un peu le principe de son association en me disant qu'il voudrait vraiment que j'en fasse partie. Un jour, il m'a appelé pour me dire que sur Les Chemins de la Réussite, il y avait une journée où du coup il y avait une grande conférence avec beaucoup de contacts de personnes d'influence où j'ai pu rencontrer certaines personnes. Et donc, il y avait plusieurs élèves, étudiants qui passaient, des handicapés, que ce soit handicap mental ou physique, des personnes qui n'ont pas eu vraiment de chance dans leur vie, où ils ont vécu dans la pauvreté, tout ça. Et donc, je m'y suis retrouvée avec eux, donc en ayant vécu ce traumatisme. Donc j'étais passée en dernière ce jour-là, on devait faire un discours d'ailleurs que je voulais préparer au préalable, sauf que j'étais trop stressée, donc j'arrivais pas à le préparer et je suis passée à l'impro. Mais ça s'est bien passé. Je m'appelle Amel Damani, j'ai 19 ans, je suis actuellement en deuxième année de commerce à l'IUT de Roubaix. J'ai deux grands frères et une grande sœur, mais elle est handicapée. Elle est aussi épileptique, elle a beaucoup de soucis de santé, de retard mental, tout ça, donc voilà. Alors mon père, il me semble qu'il était technicien dans différentes entreprises, et ma mère, elle a été femme de ménage pour remplir un petit peu le compte financier. Et ma mère, de base, elle était assistante maternelle, donc elle avait des enfants qui venaient à la maison. Ce qui était sa passion, parce qu'elle adorait les enfants. Mais elle a arrêté à cause de mon père, parce qu'il montrait beaucoup de violence envers ma sœur. Et une fois, il l'a fait devant les enfants. Donc ma mère, quand elle a vu ça, traumatisée, elle a tout de suite arrêté, parce qu'elle ne voulait pas rentrer d'autres enfants dans la vie de ce monstre, on peut se le dire. Alors il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très nerveux. Ma mère voulait divorcer, car il a toujours été violent avec elle. Il y a 34 ans, donc c'était quand ils se sont mariés, les violences ont commencé dès le mariage. Violences physiques à base de coups, d'étranglements, de tout ça. Tout le monde doit lui obéir, et c'est comme ça et pas autrement. Et quand ça ne fonctionnait pas, bah, ça pétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il pétait des plombs, quand il avait envie de déverser sa violence sur quelqu'un, bah, il le faisait sur mes frères et sœurs, sur moi, mais sur ma mère, c'était quotidien. Il y a à peu près 7 ans, mes frères ont quitté le domicile familial parce que voilà, ils ont commencé à grandir. Donc il n'y avait que mes parents, moi et ma sœur. Et avec moi, il n'avait jamais été violent physiquement, mais il avait toujours été violent verbalement. Il a commencé ses insultes crescendo, donc c'est-à-dire qu'au début, c'était des petites insultes parce que je sortais un peu plus, que je commençais à avoir une vie sociable. T'es une pute, t'es une salope, tu es le diable en personne. Que j'allais rater ma vie, que j'étais une merde. Et d'entendre son père dire ça, droit dans les yeux, alors que t'es jeune, ben, ça touche, on perd confiance en nous. Et au bout d'un moment, ben, moi, je faisais des grosses crises. Ça me travaillait. J'ai eu des idées noires par rapport à ça. Donc, en fait, il avait vraiment bousillé ma santé mentale et l'a anéantie. Ma mère se rebellait un peu plus. Et j'étais derrière elle pour la pousser à dire les choses, à ne pas avoir peur. Et comme elle a vu que je commençais à grandir et que j'étais fortement de son côté par rapport aux violences, elle s'est dit que c'était le moment. Du coup, ma mère lui avait annoncé le divorce, lui avait annoncé qu'elle avait porté plainte pour des coups et violences. J'étais venue témoigner. Et après donc cet événement, il avait un comportement très bizarre. Il restait toute la nuit devant la télé, sans bouger, sans parler, sans même enlever son bonnet ni son manteau. Et il repartait au matin au travail et il revenait. Et c'était ça en boucle, il mangeait plus. Il avait perdu, je pense, au moins 10 kilos. Il ne se lavait plus. Et donc, il a commencé, je pense, à avoir des idées noires. Je ne le reconnaissais plus. Franchement, il faisait peur. Son expression de visage avait changé. Ses joues étaient creusées. Ses yeux étaient noirs. Donc, on voyait vraiment qu'il se préparait quelque chose. Et donc, ce qu'il a fait, il a fait le 29e féminicide de l'année 2022 avec ma mère. Ça s'est passé le 29 mars, j'étais en terminale, donc l'année de mon bac. Je suis retournée en cours environ 3 semaines après pour continuer à suivre les cours. Sauf que comme ma maison était sous scellée, j'avais pas accès à mes cahiers. Parce que du coup, quand j'ai dû partir de la maison, j'avais juste mon téléphone, un sac, ma tenue que j'avais sur moi et c'est tout. J'avais pu rien prendre d'autre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant mon bac, j'avais pu retourner chez moi pour aller chercher mes affaires de cours. Mon avocate avait fait appel pour ça. Donc j'avais eu 2 semaines pour réviser tous mes cours pour le bac. et j'avais récupéré des vêtements, quelques petites affaires personnelles, dont notamment une boîte à musique que j'avais offert à ma mère avec des petites photos d'elle dessus. Ça me tenait vraiment à cœur. Parce que ma mère m'a toujours éduquée pour que je garde une grande force. Et ce qui m'a beaucoup aidée pour l'obtention de ce bac que j'ai eu avec mention bien. C'est que du coup, pendant l'examen, j'avais demandé à ramener ma petite boîte à musique. Et en fait, c'était ma motivation. Je voulais réussir pour elle, pour la rendre fière à tout prix. Je voulais qu'elle voie que j'ai eu le bac, même si elle n'était pas là. Elle sera toujours là dans mon cœur. Et pour moi, dans ma religion, elle est toujours là à me regarder. Donc je voulais qu'elle me voie réussir, même si elle n'était pas là pour fêter ça avec moi. Au moins, je l'ai fait pour elle. Comme j'étais mineure, c'était assez compliqué. J'ai failli terminer en foyer. Parce que c'est pas un environnement où je me serais sentie à l'aise. Donc j'ai emménagé chez la famille de ma cousine. Du coup, c'était le frère de mon père. Qui était une mauvaise idée. Parce que du coup, je me sentais pas chez moi. Et il me le faisait sentir que j'étais pas chez moi. Il voulait pas que je porte plainte contre mon père. Parce que voilà, c'était son frère. Et il voulait pas trahir la fratrie, comme il disait. Donc du coup, ça s'est mal passé, on va dire. Il voulait pas de moi chez eux. Et au bout d'un mois, clairement, ils m'ont dit de partir. Donc j'avais juste un sac, un cabas avec 2-3 vêtements dedans et 2-3 produits de maquillage. Donc je l'ai pris, je suis partie. Mon copain et la famille de mon copain, d'ailleurs, m'a proposé de vivre chez eux. Donc j'ai vécu chez eux aussi pendant un mois. Donc là, par contre, je me sentais vraiment chez moi. J'étais comme leur fille, quoi. Ils ont vraiment été adorables en tout point. Et donc, je ne prends pas vraiment de nouvelles de mon père. Le seul contact que j'aurai avec lui, donc, ce serait au procès. Parce que du coup, je suis partie civile pour ce procès. Là, actuellement, mon père, il est en détention provisoire. Moi, à l'heure actuelle, je le déteste. Il m'a arraché la personne que j'aimais le plus au monde. C'était ma mère, ma confidente, c'était tout pour moi. J'aurais pu donner ma vie pour elle. Donc en fait, il m'a enlevé le réel bonheur que j'avais. Avant cet événement, j'étais une personne qui était très pétillante, on va dire. J'avais beaucoup d'énergie, mais quand ce meurtre s'est passé, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu ma confiance en moi. Mais je tiens le coup parce que je suis dans une famille adoptive. Qui sont les parents d'une copine que je connais depuis 3 ans et qui m'ont proposé donc de vivre chez eux. Donc aujourd'hui, ça va faire un peu plus de 2 ans du coup que je vis chez eux et ça se passe super bien. Pour vous dire, je les appelle maman et papa. C'est vraiment ma famille adoptive. Donc j'ai vraiment retrouvé une famille qui m'appartient et là je suis heureuse d'avoir, on va dire, une deuxième mère sur qui je peux compter, un vrai père sur qui je peux compter. Donc voilà. C'est là où j'ai commencé à reprendre confiance en moi à ce moment-là et j'ai pu vraiment me rendre compte en fait que ben, tout est possible, que je peux tout réussir si je le veux. Et donc il faut savoir que moi j'ai fait un baccalauréat esthétique, cosmétique et parfumerie, sauf que ben, j'ai toujours voulu m'orienter vers le commerce. Donc quand j'ai fait mes admissions Parcoursup, j'avais pas été retenue à l'université que je voulais, donc l'IUT de Lille, site de Roubaix. Donc je voulais absolument l'intégrer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais écrit une lettre à l'intention du directeur. Je suis rentrée dans l'université et je lui ai montré ma motivation, clairement. Et donc il a tout de suite accroché, il a vu que j'étais motivée, j'ai été admise. Et là, du coup, ça fait 2 ans que j'y suis et ça se passe super bien. Donc voilà, donc, quand j'ai eu cette proposition de rentrer dans l'association Les Chemins de la Réussite, j'ai pu rencontrer ma marraine qui m'a aussi beaucoup apporté, donc qui est la directrice de l'EDEC à Lille. L'EDEC, il me semble que c'est la 5e meilleure école de commerce et elle propose des cursus qui m'intéressent énormément. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un entretien avec elle pour du coup mon futur dans cette école, parce que ça touche aussi le commerce, tout ce qui est business international, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc, grâce à cette association, j'ai pu rencontrer donc cette directrice. Une fois tous les mois, elle m'envoie un mail pour savoir comment je vais, si mes cours se passent bien, tout ça. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir un accompagnement un pilier dans la matière que j'aime le plus. J'étais petite, je rêvais vraiment de rapporter quelque chose sur cette terre. Je voulais vraiment mettre mon nom, mettre mon empreinte. J'espère le faire un jour. Je ferai tout pour le faire. Là, aujourd'hui, je sais que c'est un peu plus complexe, mais j'aimerais quand même apporter quelque chose de plus dans ce monde. J'avais déjà eu l'idée, en fait, d'aider des femmes dès que ces violences s'arrêtent. Les féminicides s'arrêtent, même si je sais que ça n'arrivera jamais, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit. Enfin, ce meurtre, ça m'a vraiment donné envie de rentrer dans ce combat. Je me suis rendu compte que c'était, il y en avait de plus en plus, qu'on prenait pas assez ça au sérieux. Et quand on se rend compte de toutes les conséquences qu'il y a derrière, notamment pour les enfants, ça peut briser des vies. Et je pense que on a déjà assez de soucis sur Terre pour ne pas prendre ce combat au sérieux.
C'était Les chemins de la réussite, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Wendy, à Amel, à Kenza et au commissaire Abdelkader Haroun. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Our December's empty-handed, but I'm